Décryptage. Anne Corpet.
Les électeurs italiens votent dimanche prochain pour renouveler leur Parlement. La coalition de droite est donnée gagnante du scrutin et c'est le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia qui est en tête au sein de cette alliance. Il est dirigé par Giorgia Meloni, une femme de 45 ans, engagée en politique dès sa jeunesse sous les couleurs d'un parti nostalgique du dictateur fasciste Benito Mussolini. Si sa victoire est confirmée, Giorgia Meloni pourrait devenir la première femme présidente du Conseil italien. Elle assure avoir pris ses distances avec le fascisme et se dit prête à défendre les intérêts nationaux de l'Italie. Mais quelles sont ses convictions profondes? Quelle sera sa politique? L'Union européenne doit-elle s'en inquiéter? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans Décryptage. Bienvenue, ravie de vous retrouver. Et pour évoquer le tournant que s'apprête à prendre l'Italie, nous sommes en ligne avec Marianne Matar Bonucci. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure à l'Université Paris 8 et spécialiste du fascisme. Et nous sommes aussi au téléphone avec Paolo Modugno, professeur en civilisation italienne à Sciences Po. Vous êtes avec nous?
Oui, bonsoir. Je suis avec vous de Turin.
Bonsoir et merci à vous également d'être avec nous. Et tout d'abord, écoutons comment se présente habituellement celle qui, selon toute probabilité, s'apprête à prendre la tête de la présidence du Conseil en Italie.
Moi, je suis Giorgia. Je suis une mère. Je suis une femme. Je suis italienne.
Alors on l'entend, Giorgia Meloni s'époumonne sur scène, elle se présente simplement. Marianne Matar Bonucci, quel est son parcours?
Alors, l'extrait que vous avez cité est intéressant parce que parfois elle ajoute « je suis chrétienne hein, », aussi ça fait partie de la ritournelle. Elle vient de… elle s'est engagée à 15 ans donc en politique au sein du Fronte della Gioventù qui était l'organisation de jeunesse du mouvement social italien, mouvement créé en 1946 par d'anciens fascistes qui, pour certains, avaient combattu aux côtés des Allemands dans la République sociale italienne, donc d'authentiques fascistes. Ce parti a évolué, notamment sous la direction de Giorgio Almirante, qui était son leader historique. Bon, pour vous le situer quand même, Almirante avait été, à l'époque du fascisme, le secrétaire de rédaction d'une revue raciste et antisémite, la Difesa della Razza. Donc, c'est un parti qui a vraiment été créé pour faire vivre les idées fascistes, mais qui s'est peu à peu intégré dans le jeu institutionnel en présentant des candidats aux élections. Et ça a été d'ailleurs théorisé hein, par les leaders du parti, notamment Almirante, sous la forme de ce qu'ils appelaient la stratégie de la double voie, hein, c'est-à-dire d'un côté, on conteste dans les rues, sur les places, la démocratie parlementaire, puisque le fascisme est hostile à la démocratie.
Et pour revenir à Giorgia Meloni.
Et en même temps, on participe au jeu électoral. Alors, Giorgia Meloni, donc, elle a été héritière, elle a d'abord milité dans les rangs de ce parti, mais ce parti lui-même s'est transformé encore après, prenant ses distances sous l'impulsion de Giorgio Fini, prenant ses distances par rapport au passé fasciste.
Alors, à l'héritage de Mussolini, oui.
Et à l'héritage de Mussolini. Alors elle a été, je dirais, beaucoup plus modérée dans ce processus de révision qu'avait engagé Fini. Et ce n'est que récemment, au moment où se rapprocher de la perspective d'arriver au pouvoir, qu'elle a effectivement pris ses distances, notamment bon, dans un livre d'autobiographie, dans une vidéo qui a été enregistrée aussi en français.
Oui, on en entendra un extrait plus tard. Oui.
Voilà, et dans lequel elle présente son parti comme étant un parti des conservateurs. Alors, si vous lisez le programme, en effet, hein, il n'y a rien de directement fasciste dans le programme. Si vous lisez la biographie, l'autobiographie, les choses sont bien plus ambiguës.
Hein, et il y a notamment ce symbole.
Elle n'a pas complètement rompu. Hein, elle n'a pas complètement rompu avec l'imaginaire, au moins néo-fasciste.
Elle a en effet notamment conservé le symbole de la flamme tricolore.
Absolument.
Qui est sur la tombe de Mussolini. Alors Paolo Modugno, qu'est-ce qui séduit les Italiens chez Giorgia Meloni?
Tout d'abord, c'est comme un peu partout l'idée de la nouveauté. Ce parti n'a jamais été au pouvoir et pour cause. Et évidemment, les Italiens se disent, on a essayé tous les autres, ça n'a pas vraiment très bien marché, donc pourquoi pas essayer ceci. Et puis, je dirais, il y a aussi, comme on a vu ça aussi ailleurs, l'habilité du leader politique par rapport à la faiblesse des autres leaders, que ce soit le leader de la gauche, Enrico Letta, que ce soit évidemment le leader de 5 étoiles, ou les autres leaders de droite qui sont Salvini et Berlusconi. Le dernier, très fatigué, qui est en politique depuis 1994, Salvini, qui a beaucoup descendu dans les sondages depuis les 35% qu'il avait eu aux européennes. Il est maintenant en dessous de 12% dans les sondages.
Et alors, dans leur accord électoral, les partis de la coalition de droite se sont entendus pour proposer au président de la République le nom du chef de parti ayant obtenu le plus de voix comme futur président du Conseil. Mais Marianne Matar-Bonucci, est-ce que le président est contraint d'en tenir compte? Autrement dit, est-ce qu'il peut nommer quelqu'un d'autre si Fratelli d'Italia arrive en tête d'une coalition victorieuse?
Absolument. Le président de la République a effectivement le pouvoir de nommer quelqu'un d'autre. Maintenant, elle fait campagne sur le thème « Je serai Premier ministre ». Elle a beaucoup insisté sur le fait qu'il faut nommer comme Premier ministre le représentant du parti le plus puissant. Donc, elle est en train de tout faire pour que le président de la République nomme quelqu'un d'autre, ça apparaisse, si vous voulez, comme un déni de démocratie.
Paolo Modugno...
Je pense qu'en fait, d'après ce que sort de la présidence de la République... Mattarella, qui est un très grand connaisseur des institutions, un grand constitutionnaliste, s'il a, comme les sondages le disent, parce que les sondages se sont arrêtés il y a 10 jours, dans les 2 dernières semaines de campagne, on n'a pas le droit de publier des sondages, mais si ce que les sondages ont prédit, donc une large victoire de la droite, la présidence de la République, à mon sens, ne pourra pas ne pas nommer le leader d'où parti arrivé en tête, à savoir Giorgia Meloni.
Alors, Marianne Matar-Bonucci, le mode de scrutin est fondamental dans cette élection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez brièvement comment il fonctionne et pourquoi, finalement, on s'achemine vers une présidence du Conseil aux mains de l'extrême droite?
Alors, je dois dire que c'est assez complexe de comprendre comment les choses ont été élaborées, mais de manière très schématique, Paolo Modugno complétera peut-être. Il y a une partie des députés et des sénateurs qui est élue donc sur la base d'un scrutin proportionnel, à peu près les 2/3, et un gros tiers qui est élu sur la base d'un scrutin majoritaire à 1 tour.
Et c'est celui-là qui finalement est le plus important, Paolo Modugno?
Oui, non, mais en fait, le système est très compliqué et très mal foutu.
Oui.
Mais l'électeur exprime une seule voix au niveau proportionnel sur une liste. Par exemple, prenons un exemple concret. La coalition de droite, il y a 4 partis. L'électeur vote pour un des 4 partis.
Alors, il vote pour Forza Italia, par exemple.
Il exprime un certain nombre de candidats. Mais son vote se transfère automatiquement au candidat que la coalition de droite a exprimé à l'uninominal. Donc, l'électeur, en fait, est contraint. Il ne va exprimer qu'un seul voix pour un parti que si est en coalition... Les voix se transfèrent aussi à l'uninominal. Donc c'est un système assez mal fait qui était élaboré dans le cadre d'une réforme constitutionnelle qui finalement n'a pas abouti mais qui nous a laissé ce système bancal.
Et Fratelli d'Italia, ce parti avait obtenu 4% des voix en 2018. Il est aujourd'hui crédité de 25% aujourd'hui. Comment vous expliquez cette progression spectaculaire, Marianne Matar-Bonucci?
Eh bien, donc Paolo a donné quelques éléments d'explication. L'affichage d'une force politique neuve qui n'a jamais gouverné, donc qui n'est pas corrompus, comme le seraient d'autres partis. D'autre part, comme d'ailleurs la Lega, même si la Lega l'a beaucoup perdu,
la Ligue de Salvini,
l'ancienne Ligue du Nord, ils ont tout à fait bien compris le tournant des réseaux sociaux. Et donc, il y a une propagande de Giorgia Meloni qui est assez au point, hein, de ce point de vue-là. Ce sont des partis qui jouent sur les peurs. Hein. Ça, ce n'est pas spécifique à l'Italie. C'est ce qui s'est passé en Suède. C'est ce que font aussi les partis d'extrême droite en France, et en particulier la peur de l'immigration, la peur des migrants, donc, est un argument, et les questions de sécurité aussi sont au cœur donc, de la campagne électorale. Alors, on est dans un contexte de crise, vous le savez bien, et je pense que ces arguments fonctionnent.
Paolo Modugno, la Russie avait été mise en cause dans la chute du mouvement du gouvernement Draghi. Est-ce qu'il y a eu des ingérences russes dans la campagne? Marianne Matar-Bonucci parlait du rôle des réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. On a constaté, donc j'étais à la mairie de Turin, où les gens de la mairie qui travaillent sur des plateformes d'analyse des réseaux sociaux m'ont dit que donc ils ont constaté une augmentation très importante ces derniers jours, ces dernières semaines, de faux comptes qui font de la propagande, qui essayent en fait d'infiltrer, de manipuler ces élections. Mais je voulais juste rajouter un élément à votre question précédente sur pourquoi Giorgia Meloni et qui y a derrière elle aussi. En fait, c'est un phénomène assez classique qu'on retrouve un peu partout, mais comme des gens, une partie de l'élite, et même, je dirais, une partie importante de l'élite italienne qui monte sur l'autobus du gagnant. Donc, des personnalités qui ont rallié Fratelli d'Italia, qui vient d'univers tout à fait différent. On a un philosophe libéral, féministe, qui était militante du Parti radical, qui sont maintenant donc des gens qui vont probablement rentrer dans un futur gouvernement de Giorgia Meloni, qui viennent d'ailleurs, mais qui profitent un peu de la situation.
Alors, Marianne Matar-Bonucci, l'immigration, vous l'avez évoqué, a été un sujet clé de cette campagne. Giorgia Meloni dit vouloir instaurer un blocus naval immédiat. Concrètement, ça signifie quoi ?
Bah, écoutez, tout le monde se pose la question, et ça n'a pas grand sens précisément. D'ailleurs, c'est une revendication qu'elle a fini par abandonner parce que justement, on a expliqué que d'un point de vue du droit international, il était absolument impossible de procéder à un blocus naval. Hein, donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que elle met l'accent précisément sur essentiellement sur le problème des réfugiés, hein, qui viennent, ou des demandeurs de droit d'asile qui viennent de l'autre rive de la Méditerranée, mais l'essentiel des migrants en Italie ne viennent pas du sud de la Méditerranée. La question des réfugiés est une question mineure.
Oui, d'ailleurs, Paolo Modugno, oui. Il y a eu beaucoup de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en Italie. Ça n'a pas provoqué de protestation?
Non, il y a une contradiction. En fait, le peuple italien soutenait à 75% l'action du gouvernement Draghi, qui a été un des plus en pointe dans l'aide à l'Ukraine, au moins sur les questions diplomatiques, moins du point de vue militaire. Mais effectivement, oui, il y a eu un accueil de la population italienne favorable par rapport à la question ukrainienne. Maintenant, la grande question de ces élections, c'est aussi le rapport à l'Europe.
Oui, alors justement, l'Europe s'inquiète de l'arrivée de Meloni au pouvoir. Elle a salué la victoire de la coalition de droite en Suède, au sein de laquelle le parti d'extrême droite a raflé le plus de voix. Meloni dit que son gouvernement défendra l'Europe des patries contre celle de Bruxelles, et je vous propose de l'écouter.
Il y a plusieurs décennies que la droite italienne a
Nous faisons peur à l'Europe, tant mieux. Fratelli d'Italia est un parti de patriotes, pas des vendus à la France ou à l'Allemagne.
Alors, les partenaires européens doivent-ils s'inquiéter de l'arrivée d'une nationaliste au pouvoir à Rome, Paolo Modugno ?
Alors, c'est la question fondamentale. Je pense qu'évidemment, le modèle, ça sera plutôt la Pologne ou la Hongrie, c'est Orban. Mais en même temps, Meloni a été très, très habile. Elle a fait une campagne un peu à Chirac numéro 2. C'est-à-dire, elle a essayé de dire le moins possible de choses et de rassurer le plus possible, tout en disant qu'elle ne va absolument pas sortir de l'euro, qu'elle défendra les intérêts italiens, mais au sein de l'Union européenne. Et il y aura aussi une chose très importante, c'est le rôle du président de la République. Parce que le président de la République en Italie n'a pas seulement un rôle formel, mais il a un rôle de garant de la Constitution. Et il peut s'opposer, par exemple, à certaines nominations ministérielles, notamment dans les postes les plus importants, comme l'économie, la défense et l'intérieur. Et donc, la coalition de droite qui va probablement gagner devra aussi composer, négocier avec la présidence de la République.
Alors, Marianne Matar-Bonucci, les rapports de l'Italie avec la France ne risquent-ils pas d'être compliqués en cas d'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir? Elle a eu des mots très durs sur Emmanuel Macron.
Oui, bah écoutez, là, elle essaie plutôt de recoller les morceaux en ce moment, hein, mais et pareil pour l'Europe, hein, après avoir été très anti-européenne, là maintenant, je pense qu'il n'y a pas de crainte, en effet, que l'Italie sorte de l'euro ou de l'Europe, d'autant plus quand même, il faut le rappeler, qu'il y a eu une aide très importante donnée par l'Europe.
219 milliards d'euros.
Voilà, qui est, je crois, la plus importante, en tout cas plus importante que l'aide attribuée à la France, et donc les Italiens seraient quand même là mauvais joueurs, hein, que de critiquer l'Europe sur ce terrain-là. Donc moi je la crois assez politique pour éviter une crise frontale. Je pense que le plus dangereux serait qu'elle reste au pouvoir, un travail d'alliance et voir la formation d'une forme de bloc avec justement ces États où la droite nationaliste est déjà au pouvoir, hein, et on n'en a pas tellement parlé. Mais elle insiste énormément quand même sur l'appartenance à la chrétienté. Elle dit sans arrêt à qui veut l'entendre qu'elle est chrétienne.
Et sa devise est « Dieu, patrie, famille ».
Voilà, et elle identifie Europe et chrétienté. Hein. Et ça, c'est quand même une conception, je veux dire, à laquelle elle croit profondément et qu'elle n'est pas seule à avoir. Et voilà, si les États finissent par imposer cette idée-là de l'Europe, eh bien, à l'évidence, en tout cas, ce ne sera plus les conceptions qui ont été mises en œuvre depuis quelques décennies.
Alors justement, Paolo Modugno, que pensent les femmes en Italie? Parce que ce serait la première femme présidente du Conseil. En même temps, les valeurs qu'elle défend, qu'elle défend, peuvent laisser craindre des reculs pour les droits des femmes. Je pense notamment à l'avortement.
Oui, l'avortement, c'était un des points vraiment importants de débat de la campagne. Elle a dit de ne pas être contre vraiment l'avortement, mais de vouloir donc défendre les droits des gens à ne pas avortir. Donc, bon, c'est un petit peu subtil comme argumentation. Mais effectivement, les mouvements féministes est un petit peu un porte-à-faux parce que ça sera la première fois que c'est une femme, mais qui effectivement défend des valeurs plutôt traditionnelles. Sur la question des relations avec la France, Giorgia Meloni et Fratelli d'Italia en général sont plutôt anti-français en général. Et il y aura la question de l'énergie dont on parle énormément en Italie et l'annonce faite il y a 3 jours par la France de ne plus vendre à l'Italie en fait les 5% d'énergie que l'Italie a acheté de la France, ça ne va pas améliorer les choses dans les rapports franco-italiens.
Très rapidement, Marianne Matar-Bonucci, vraiment en 15 secondes, est-ce qu'un sursaut des partis de gauche ou du centre aux législatives est à exclure ?
Non, parce qu'il y a quand même il y a des abstentionnistes qui sont susceptibles de se mobiliser et les sondages se sont déjà trompés par le passé.
Eh bien,
donc,
nous suivrons ça dimanche prochain pour les législatives en Italie. Marianne Matar-Bonucci, Paolo Modugno, merci d'avoir été avec nous. Merci à Claude Battista à la réalisation.